Merci beaucoup pour cet accueil et c'est vrai que nous sommes très heureux depuis plusieurs jours d'être avec vous. Alors on a eu la joie de voir une partie de l'église vendredi, une autre partie samedi et puis là c'est toute l'église qui est rassemblée je crois. Hein? Il en manque, il y en a qui sont déjà en vacances peut-être, non? À la feria? Non, pas à la feria, non. En tout cas, qu'est-ce que nous sommes heureux d'être là. Et c'est vrai que... Alors peut-être quelques mots de présentation pour ceux qui nous voient pour la première fois. Donc je m'appelle Luigi Davi, mon épouse s'appelle Yolanta, vous aurez l'occasion de l'entendre tout à l'heure, elle est d'origine polonaise. Moi je suis né à 100 mètres de la mer Méditerranée, 100 mètres de la mer Méditerranée, en Sicile. Voilà, certains l'ont compris, en Sicile. Donc ça ne se voit pas, hein. J'ai un look plutôt germanique, mais bon voilà, c'est normal, la Sicile a tellement été envahie. Mais voilà, le Seigneur nous a conduits dans divers pays et surtout pour le moment en région parisienne où nous servons le Seigneur. Nous sommes rattachés à l'église de Saint-Germain-en-Laye. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave, vous connaissez le PSG. Non, vous ne connaissez pas le PSG? Non, j'ai dit un gros mot. Je suis désolé. Oui, allez l'OM. Donc c'est là en fait, c'est dans l'ouest parisien, donc nous sommes rattachés à cette église, mais depuis 2 ans nous voyageons beaucoup, comme vous l'avez compris, votre pasteur vient de le dire, nous voyageons parce que le Seigneur nous a appelés à un ministère d'enseignement. En fait ça fait plus de 30 ans que nous avons commencé notre service pastoral dans les églises, mais en parallèle avec un ministère d'enseignement dans plusieurs instituts, facultés dans le monde entier. Et là, plus précisément il y a 3 ans, nous avons... fondé un institut de théologie en ligne, on en parlera tout à l'heure, Scopos Formation. Et donc, c'est une joie que vraiment de pouvoir aborder toute une série de thèmes, parce que vous savez, je suis un peu particulier dans la mesure où je suis un théologien pratique. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je ne suis pas haut perché dans ma tour d'ivoire à réfléchir à des théories fumeuses. Non, j'aime vraiment l'Église et je veux faire le lien entre l'étude approfondie de l'Écriture et les besoins de l'Église. Et donc toutes les thématiques que j'ai l'occasion d'aborder concernent vraiment les besoins de l'Église. Et c'est pour ça que ce week-end concernait la famille. Vraiment très heureux d'être là. Merci à votre pasteur pour cette invitation. Et nous allons continuer. Pour ceux qui étaient là, ça va être une suite. Il y a des moments où il va y avoir un petit rappel, de manière un peu à raccrocher un peu tous les wagons, hein, tous ceux qui n'ont pas été au bénéfice de ces enseignements depuis 2 jours. On va parler donc des relations familiales. Il y a un arbre généalogique qui est là sur l'écran. Comme toute bonne famille italienne, sicilienne, en plus, je fais partie d'une famille nombreuse. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui font partie d'une... Levez la main, n'hésitez pas. Hein. Voilà, famille nombreuse. À partir de 3, vous êtes en famille nombreuse, hein, je le dis tout de suite. Voilà, super. Il y a... Moi, je suis le 4e d'une famille de 5. Hein. Et donc, je me rappelle d'un journaliste qui faisait un reportage sur une famille nombreuse. Et donc, il avait... Il filmait toute la journée d'une famille nombreuse avec la maman qui courait après tous les enfants, etc. Enfin, et à la fin de la journée, cette maman était exténuée. Et le journaliste lui-même était exténué à voir cette maman exténuée. Et il en profita pour faire une interview à ce moment-là avec sa caméra, son micro. Il lui demanda, est-ce que si vous pouviez revenir en arrière, est-ce que vous auriez autant d'enfants ? Et cette maman de répondre oui, oui. Le journaliste étonné de dire, vous êtes sûr? Vous auriez autant d'enfants? Oui, j'aurais autant d'enfants, mais pas les mêmes. Pas les mêmes, d'autres. On ne choisit pas les membres de sa famille. Hein. Alors, vous connaissez ce dicton, hein. On ne choisit pas les membres de sa famille, ils sont comme ils sont. Moi je suis 4e d'une famille de 5 et je me rappelle que du haut de mes 5 ans, à un moment donné, lorsque ma petite sœur est née, elle était terrible ma petite sœur, hein. Elle est toujours maintenant, mais bon, mais quand elle est née, elle était vraiment terrible, elle pleurait tout le temps, il faut dire qu'elle souffrait aussi, la pauvre. Mais moi je ne savais pas, du haut de mes 5 ans, j'ai été trouver ma maman, je lui ai dit, écoute, maman, il y a un problème. Un problème avec ce bébé, il est défectueux. elle pleure tout le temps. J'étais chargé d'aller lui donner la tétine. Elle était au premier étage et moi, je montais les escaliers toutes les 10 minutes, vous voyez, et j'en avais assez. Je dis, il est défectueux. Il faut que tu le ramènes à l'hôpital. Mais oui, on m'avait expliqué qu'il l'avait acheté à l'hôpital. Moi, je me suis dit, elle est toujours sous garantie. Il y a moyen de faire un échange standard, vous voyez. Ah là 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 là, les relations familiales sont compliquées. Que ce soit avec notre conjoint, que ce soit entre parents et enfants, que ce soit avec les cousins, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Toutes les relations familiales sont compliquées. Pourtant, comme l'écrivait un philosophe chrétien, Francis Schaeffer, les relations que nous entretenons les uns avec les autres sont le critère que le monde utilise pour juger si notre message chrétien est véridique. Waouh, en effet, hein, j'ai entendu un waouh, c'est vrai. Les relations que nous entretenons les uns avec les autres sont le critère que le monde utilise pour juger si notre message chrétien est véridique. Ça fait écho aux paroles de Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nos relations familiales sont une vitrine pour le monde. Oui. Une vitrine par rapport à l'évangile que nous annonçons, que nous prêchons, que nous chantons, que nous prions, mais que nous devons démontrer dans nos relations familiales aussi. C'est dire si ces relations sont importantes. Elles sont importantes et d'ailleurs ça a été la préoccupation première de Dieu depuis le commencement. Nous l'avons vu dès vendredi et hier également, dès la genèse de l'humanité, Dieu s'est préoccupé activement de l'établissement de saines relations entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants, entre les frères et frères, et sœurs aussi, mais bon, au sein de chaque famille humaine. Voilà pourquoi la Bible contient, depuis le début, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, des tas de conseils, de principes importants qui concernent la famille. Et ce matin, j'aimerais vraiment avec vous examiner quatre de ces principes qui sont exprimés par quatre versets bibliques, tout simplement. Quatre versets bibliques, quatre principes qui peuvent améliorer nos relations familiales, qui peuvent rétablir nos relations familiales. Quatre principes importants. Et on va commencer par le premier de ces principes. Alors, comme moi, vous êtes certainement devenu très familier avec un petit objet rectangulaire noir qui se trouve dans votre sac, dans votre poche, dans votre main, si vous êtes adolescent, ils sont collés aux mains des adolescents. On ne s'en sépare plus, on est très familier, vous savez de quoi je parle, le portable bien entendu, le smartphone, on a tous un smartphone, on sait tous plus ou moins utiliser le smartphone. Mais combien savent comment fonctionne leur smartphone derrière leur écran? Pas beaucoup, hein. Il faut vraiment être spécialisé pour le savoir. Parce qu'il y a une grande différence entre avoir un smartphone et comprendre le fonctionnement d'un smartphone, n'est-ce pas? Ok, je fais un parallèle. Il y a une grande différence entre avoir un conjoint et comprendre son conjoint. Bon, j'ai fait un grand parallèle, un grand saut, hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est l'apôtre Pierre qui nous livre ce premier principe. L'apôtre Pierre, je vous rappelle, qui était marié. On sait qu'il était marié parce que Jésus a guéri sa belle-mère. Voilà. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. C'est là que nous allons puiser notre premier principe. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Pierre savait de quoi il parlait, il était marié, je vous le rappelle. Donc, il va exhorter les maris à faire preuve de discernement. Qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de discernement? L'expression que nous avons en français là signifie « chercher à comprendre son épouse ». Chercher à comprendre son épouse et se comporter envers elle avec sagesse. C'est ça, faire preuve de discernement. Chercher à comprendre et se comporter avec sagesse, c'est notre premier principe. Chercher à comprendre l'autre. Alors, je vois déjà que certains hommes sont en train de marmonner dans leur barbe qu'il est plus facile de comprendre la physique quantique que leur épouse. Oh, c'est vrai. Et les épouses ont le droit de dire la même chose de leur mari. Je suis d'accord. On est tellement différents les uns des autres. On a tellement du mal à se comprendre les uns les autres. On l'a vu depuis vendredi. J'ai lu il y a quelques années un livre dont le titre est révélateur. Peut-être vous le connaissez vous aussi. Il a carrément donné lieu à un spectacle. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Vous en avez entendu parler. On en a fait un spectacle humoristique. Tellement c'est drôle nos différences. En lisant ce livre, j'ai appris une nouvelle langue. La langue vénusienne. Vous connaissez la langue vénusienne ? Alors, moi, ouais, je me suis un peu vanté. Là, je connais juste quelques expressions de la langue vénusienne. Je ne connais pas toute la langue vénusienne. Par exemple, lorsqu'une épouse s'écroule sur le canapé en fin de journée et qu'elle dit « Je suis si fatiguée que je ne peux plus rien faire » et elle s'écroule sur le canapé en fin de journée. Alors, ça peut être différent. Hein. Les expressions peuvent varier d'une épouse à l'autre. Par exemple, moi, Yolanta, elle dit qu'on ne me demande plus rien et puis elle s'écroule sur le canapé. Alors, en langue vénusienne, si vous le traduisez ça en français, ça signifie « Je me suis tellement démené aujourd'hui que j'ai besoin de me reposer avant de pouvoir faire autre chose. Heureusement, chérie, que tu es là pour me soutenir. Tu veux bien me prendre dans tes bras et me dire que je fais du bon travail et que je mérite de me reposer. » C'est, oui, la traduction est toujours, enfin, il y a plus de mots, forcément, hein. Il y a plus de mots. Alors, le problème, c'est que l'homme martien standard que nous sommes ne comprend pas le vénusien, surtout s'il n'est pas équipé du dernier décodeur vénusien, le fait FXB243G. Je vois à votre air perplexe que vous ne l'avez pas. Donc, je vais vous dire, en fait, ce qu'un homme vénusien comprend. Lui, il comprend que sa femme est en train de lui dire « C'est moi qui fais tout le boulot ici pendant que toi, tu ne fais rien et j'en ai assez. Je ne peux pas tout faire toute seule dans cette maison. Ah, si seulement j'avais écouté ma mère. » Nous en avons parlé hier. Vous voyez à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un dialogue de sourds. Ça ressemble à un dialogue de sourds. En fait, et ce dialogue de sourds vraiment met en évidence l'ampleur de nos différences. Nous sommes différents. D'où le besoin impérieux que nous donne l'apôtre Pierre de tout mettre en œuvre pour chercher à comprendre l'autre. Chercher à comprendre l'autre. Alors bien entendu, ce conseil s'adresse au mari. Mais pensez-vous que ce conseil ne s'adresse qu'au mari ? Non. C'est un principe qui concerne toutes nos relations familiales. Autrement dit, ce principe qui nous demande de chercher à comprendre l'autre s'applique tout aussi bien aux épouses pour chercher à comprendre leur mari, s'applique aussi bien aux parents pour chercher à comprendre leurs enfants, s'applique aux enfants, aux adolescents pour chercher à comprendre leurs parents, etc. Dans toutes nos relations familiales, il s'agit d'un principe qui doit s'appliquer partout. Alors, que signifie comprendre l'autre ? On va aller un peu plus loin. Quelqu'un l'a défini de cette manière, et j'aime beaucoup cette définition, il a dit « C'est faire en sorte que ce qui est important pour l'autre devienne aussi important pour moi que l'autre peut l'être. » Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Je répète. « C'est faire en sorte que ce qui est important pour l'autre devienne aussi important pour moi que l'autre peut l'être. » Autrement dit, si l'autre est important pour vous, ce qui est important pour elle, pour lui, doit devenir important pour vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Des exemples ? Allez, des exemples. Mes sœurs, si votre mari est vraiment cher à votre cœur, s'il est important pour vous et qu'il se passionne pour les voitures, pour la mécanique automobile, eh bien vous devriez être incollable en carburateur, piston et vilebrequin. Mes frères, Mais il y en a pour tout le monde ce matin, je l'ai dit au pasteur. Mes frères, si votre épouse est vraiment importante à vos yeux, alors vous devriez spontanément et avec joie lui proposer de l'accompagner pour faire les soldes. Au moins comme garde du corps. Vous savez que c'est dangereux les soldes, hein. Enfin ça peut être dangereux. Chers parents, si vos enfants sont importants et ont du prix à vos yeux, vous devriez vous intéresser à leurs jeux favoris. Non seulement vous intéresser à leurs jeux, mais peut-être prendre du temps pour jouer avec eux. Pour comprendre l'autre, la question sera toujours, qu'est-ce qui est important pour elle ? Qu'est-ce qui est important pour lui ? Qu'est-ce qui est important pour eux ? Vous savez, ce principe de compréhension réciproque que l'apôtre Pierre enseigne dans cette lettre, dans cette première lettre qu'il écrit, eh bien, s'inscrit parfaitement dans le commandement d'amour que le Seigneur nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment voulez-vous aimer quelqu'un si vous ne cherchez pas à le comprendre ? Si vous ne cherchez pas à le connaître et à le comprendre ? Le premier pas pour aimer, c'est connaître. Et ensuite chercher à comprendre l'autre. Ça va de pair. On ne peut véritablement aimer quelqu'un si on ne le connaît pas, si on ne le comprend pas. Alors voulez-vous développer, entretenir, rétablir de bonnes relations dans votre famille, dans votre cercle familial ? Appliquez de tout cœur ce premier principe biblique. Cherchez à comprendre l'autre. Qu'est-ce qui est important pour elle ? Qu'est-ce qui est important pour lui ? Nous devons grandir dans cette compréhension de ceux que nous désirons aimer, de ceux que la parole de Dieu nous invite à aimer en cherchant activement à les comprendre. Et comme nous l'avons souligné hier, pour développer notre compréhension de l'autre, il est indispensable d'apprendre à écouter. Nous en avons parlé longuement hier. À écouter vraiment l'autre, c'est-à-dire à nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur ce qui importe à l'autre, sur ce que l'autre vit, sur ce que l'autre souffre, sur ce que l'autre expérimente. À faire fi de notre égocentrisme naturel pour nous mettre à l'écoute de l'autre et prendre du temps, parce que pour écouter, il faut du temps. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice lorsque, mes frères, vous êtes occupés à faire quelque chose de très important. Non, pas la sieste. Pas la sieste. Mais vous êtes en train d'occuper à faire quelque chose d'important. Je me rappelle que, vous savez, le samedi soir, il ne faut pas déranger un pasteur. Il est plongé dans sa prédication du dimanche. Et c'est là, justement, que votre adolescent vient, de rien, avec deux manettes de game, je ne sais pas quoi là, pour jouer. Et il passe devant votre bureau, puis il repasse, l'air de rien, pour vous faire comprendre qu'il a besoin d'un temps particulier avec vous. Et si vous ne vous arrêtez pas à ce moment-là, pour lui dire « tu es plus important que cette prédication, tu es plus important pour moi, parce que le Seigneur me commande de t'aimer, et parce que ce qui est important pour toi est important pour moi. Je veux te manifester mon amour à travers ce temps que je vais te consacrer. » Du temps de qualité, avec lui, avec elle, avec eux, en faisant ce qui est important pour eux, en considérant ce qui est vraiment important pour eux. Premier principe. On va aborder un deuxième principe. Et notre deuxième principe pour améliorer nos relations familiales a trait au respect. Respecter l'autre. C'est vrai que c'est quelque chose que nous désirons tous, hein. Tout le monde veut être respecté. Alors en tant qu'adulte, bien entendu. Les ados, c'est encore mieux, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Ils ont une sensibilité particulière au manque de respect. Tout le monde désire être respecté. Une saine relation, d'ailleurs, n'est possible que dans le respect mutuel. Dans la Bible, le verbe « honorer » est un synonyme de « respecter ». il décrit la même fonction. Il a la même fonction. Et nous, on le trouve un exemple dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 10. L'apôtre Paul s'exprime et il parle donc aux chrétiens de Rome en leur disant « Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde, estimez-vous mutuellement, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. » Honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Comme s'il était supérieur, honorez-le. Pas parce qu'il est supérieur, mais parce que vous voulez lui manifester votre amour. Vous voulez lui manifester votre respect. Soyez les premiers. N'attendez pas que l'autre le fasse. Soyez les premiers à honorer l'autre, dit l'apôtre Paul. Il recommande cela à l'église de Rome. Dans les relations fraternelles de l'Église de Rome, vous savez que l'Église est comparée à une famille, la famille de Dieu. Et il prend l'exemple des familles humaines et de nos relations humaines. Parce que quelque part, dit-il, d'une certaine manière, ce que l'on trouve, ce que l'on doit trouver dans la famille de Dieu, eh bien, doit se trouver également dans les relations familiales. Se trouve dans les relations familiales. Soyez les premiers à respecter l'autre, à lui témoigner des égards, comme les membres d'une même famille. Il faut bien avouer que de nos jours, le principe qui règne, la norme régnante, est plutôt l'inverse. C'est « je le respecterai lorsqu'il me respectera ». Je respecterai mes parents lorsqu'ils me respecteront. C'est plutôt ça. C'est plutôt « soyez les premiers ». C'est vraiment, on veut d'abord être respecté avant de soi-même respecter les autres. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible nous demande d'être les premiers à respecter les autres. La Bible nous demande de manifester du respect, quel qu'il soit, quel qu'il ait pu faire ou ne pas faire, quel que soit son aspect, quel que soit son comportement, quelle que soit son attitude. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'on est d'accord avec son attitude, avec son comportement, avec ce qu'il fait, avec le péché par exemple. Non. Le respect est lié à l'amour. Non seulement nous allons conforter sa valeur personnelle en le respectant, mais nous allons lui montrer également un exemple, un modèle à suivre. Nous allons l'encourager à nous respecter en retour. Ce n'est que dans le respect mutuel que nos relations familiales pourront s'améliorer. Et ce respect devrait se manifester aussi bien en parole qu'en acte. Pour tout ce qui concerne l'intimité, le temps, les goûts, les avis. Ne soyons pas orgueilleux, centrés sur nous-mêmes. Soyons toujours les premiers à manifester du respect envers les autres, à honorer les autres, à considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Soyons les premiers, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes disciples de Christ, et parce que la parole de Dieu nous le demande. Il y a un troisième principe que j'aimerais relever avec vous, l'encouragement. Encouragez-vous. Je pense que le moyen le plus simple, le plus facile de développer de saines relations familiales, c'est d'être de ceux qui encouragent les autres. Pas de ceux qui découragent les autres, hein, mais de ceux qui encouragent chaque membre de notre famille. Je lisais il y a quelque temps l'interview d'une actrice célèbre qui avait osé dire « Nous vivons grâce aux encouragements que nous recevons, mais sans encouragement, nous mourons tout doucement, tristement, amèrement. Nous avons besoin d'encouragement. » Même le plus grand, le plus fort, le plus spirituel d'entre vous a besoin d'encouragement. Même le pasteur Joël. Oui, nous en avons tous besoin. L'apôtre Paul avait besoin d'encouragement. On a des noms dans le Nouveau Testament, lorsqu'on lit précisément, on se rend compte qu'il y a eu des personnes qui ont été vraiment très importantes pour lui, qui ont été là dans les moments les plus difficiles. Nous le prenons comme modèle, nous le prenons comme exemple. Il l'a été, il le fut pour nous. Il l'est encore à travers ses écrits. Mais il y a d'illustres inconnus qui ont été pour lui des sources d'encouragement. Vous connaissez Onésiphore ? Ouais. Onésiphore a exercé la miséricorde envers l'apôtre Paul. Il a été de ceux qui l'ont porté dans les moments difficiles. Et Paul est tellement reconnaissant pour cet homme. Soyons de celles et ceux qui encouragent. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens dans sa première épître, au chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Les Thessaloniciens étaient de bons chrétiens, de bons disciples, ils le faisaient déjà. L'apôtre Paul dit, continuez, persévérez, à plus encore, vous avez besoin de grandir. Vous n'avez pas atteint la stature parfaite de Christ. Vous avez besoin de vous encourager les uns les autres, de vous soutenir les uns les autres. Les principes que l'apôtre Paul donne à l'église de Thessalonique sont tout aussi valables pour chacune de nos familles, dans chacune de nos relations familiales. Alors soyons concrets. Comment pouvons-nous nous encourager les uns les autres, à votre avis ? Premier point, en montrant les dents. Alors non, pas pour mordre. Non, quand on sourit, on montre les dents en souriant. Vous avez compris. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui a été éprouvé par une grande souffrance. Il y a un livre biblique qui porte son nom, Job. Eh bien, Job, lorsqu'il était au beau milieu de cette vallée ténébreuse, se souvenait, chapitre 29, verset 24, que lorsqu'il rencontrait des personnes qui étaient en difficulté, dans les problèmes, dans la souffrance, vous savez ce qu'il leur faisait, il faisait ? Voici ce qu'il dit, chapitre 29, verset 24, « Je leur souriais quand ils perdaient courage. » Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un sourire. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un sourire. Un simple sourire a la capacité extraordinaire de réchauffer le cœur, de redonner du courage à quelqu'un qui est au bout du rouleau, de lui redonner confiance, de lui redonner espoir. Oui, mais ce n'est pas tout. Nous pouvons aussi nous encourager mutuellement par nos mots. Nous l'avons vu hier, nos mots sont puissants. Ils ont un pouvoir énorme. Ils peuvent trancher comme un couteau. Ou ils peuvent guérir comme un baume apaisant. Nos mots ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir d'encourager ou de décourager une personne. Que voyez-vous sur cette image ? Regardez attentivement. Que voyez-vous ? Vous le voyez ? Un point ? Le point bleu ? Ok. La plupart des personnes voient ce point bleu au centre, mais elle ne voit pas l'immense surface blanche qui est autour. Nous avons tendance à remarquer les tout petits points négatifs dans la vie des autres. Et nous avons beaucoup de difficultés à remarquer leurs points positifs, leurs qualités. N'est-ce pas ? Je me souviens d'une fois où j'étais avec des moniteurs, des monitrices de l'école dimanche, on était plusieurs là, et j'apportais la méditation, et je voulais qu'ils puissent dire un mot positif, relever une qualité de la personne qui était à leur droite, assise à côté d'eux. Ah, il a fallu attendre une demi-heure, hein. Je pense que si je leur ai demandé un défaut, là c'était... j'en aurais eu plusieurs, et ça aurait été très vite, hein. Mais là, j'ai dû attendre une demi-heure. Ils se sont creusés la tête. Pourtant, ils se connaissaient les uns les autres. C'est parce que nous ne pensons pas aux qualités des autres. Nous ne percevons que leurs défauts. C'est ce qui nous saute aux yeux. Malheureusement. Et pourtant, ce sont juste des petits points. Ce sont juste des petits points. Encourageons les autres en relevant leurs points positifs. Il est vrai qu'avec nos adolescents, par exemple, je prends l'exemple des adolescents parce que, voilà, on est tellement focalisé sur leurs défauts, sur ce qu'ils font de travers. Dans le couple, on est tellement focalisé sur ce qu'il ne fait pas, qu'il avait dit qu'il ferait, il avait dit qu'il sortirait les poubelles, il ne l'a pas fait. il n'est pas fiable. Je plaisante, moi je sors les poubelles, ça va. Non, on sort les poubelles ensemble. Non, 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 non. On se focalise tellement sur les tâches, sur les points négatifs, sur les défauts, qu'on en oublie toutes les qualités de l'autre personne. Il nous faut du temps pour y réfléchir. Eh bien, réfléchissons-y dès aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, relevons tout ce qui est positif chez les autres. Pour les encourager, c'est pas en leur disant « tu dois arrêter de faire ceci » ou « tu dois arrêter de faire cela ». Non, c'est en leur disant tout ce qu'il y a de positif chez eux, toutes les qualités que le Seigneur leur a données, tout ce qu'ils démontrent jour après jour et que nous considérons comme normal. Non, ce sont des qualités qu'il faut mettre en avant, qu'il faut dire pour encourager ceux que nous aimons. J'aimerais relever avec vous un quatrième et dernier principe. Demandez et offrez le pardon. Je pense qu'il n'existe pas de famille parfaite. Il n'y en a pas non plus à Istres, hein, je ne pense pas. Il n'existe pas de famille où il n'y a jamais de conflit. Il n'existe pas de famille où il n'y a jamais de dispute. Il n'existe pas de famille où il n'y a jamais de blessure, de déception, d'amertume. Non, ça n'existe pas. Et il arrive que, en tant que membre de cette famille à laquelle, dans laquelle nous sommes, nous portions pendant longtemps des rancunes, de l'amertume, nous laissions cette plante, cette mauvaise herbe faire des racines profondes dans nos cœurs. Certains constituent même des dossiers. Et dans ces dossiers, ils classent avec la date, hein, et l'heure à laquelle le mal a été commis. Et à côté, ouais, je n'exagère pas, je ne pense pas. Et à côté, on réfléchit même comment pouvoir rendre la monnaie de la pièce à la personne. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je sais quand je pourrai ressortir ce dossier. Le 24 juin 2022, tu as dit ceci. Oh ! Oui, ça existe. Parce qu'on ne pardonne pas. Parce qu'on ne pardonne pas. Pourtant, la Bible nous donne des instructions claires et précises à ce sujet. Elles sont nombreuses. Je vais juste en relever une. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement, pardonnez-vous l'un l'autre. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. » De la même manière que nous avons reçu et expérimenté le pardon de Dieu pour nos fautes, de la même manière nous devons pardonner. Je ne sais pas pour vous combien vous avez dû payer pour recevoir le pardon de Dieu. 100 000, 1 million. Il y en a qui sont endettés peut-être à vie pour payer le pardon de Dieu. Non, je plaisante. Il est gratuit. Il ne nous a rien coûté. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas coûté énormément à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un grand prix, un prix inestimable. Mais notre pardon ne nous a rien coûté. Comment pourrions-nous faire payer aux autres le pardon qu'ils nous demandent ou qu'ils ne nous demandent pas? Parce que remarquez que Dieu a donné son Fils alors que nous lui tournions le dos. Nous n'avons rien fait pour mériter ce pardon qu'il nous offre. Ni cette gratuité, ni cet amour. Nous n'avons rien fait. Il nous a offert son pardon alors que nous n'étions même pas prêts encore à lui demander pardon. Comment pourrions-nous agir différemment envers toutes celles et ceux autour de nous qui nous sont proches, qui sont les membres de notre famille et pour lesquels nous gardons des rancunes, des amertumes, pour lesquels nous avons des difficultés de pardonner ou de demander pardon? Accorder son pardon, demander pardon. Je lisais cette histoire qui s'est produite en Espagne, l'histoire d'un père et de son fils qui s'étaient tellement violemment disputés que ce fils est parti en claquant la porte. Et il lui a dit en partant, « Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. » Tu ne me reverras plus. Les mots qui avaient été échangés étaient abominables. Comme on l'a vu hier, les mots dépassent souvent notre pensée et peuvent vraiment blesser à mort. Les mois ont passé, les années ont passé. Ce père espérait qu'à un moment donné, son fils reviendrait, reprendrait contact, mais il ne l'a pas fait, plus aucune nouvelle. Il ne savait même pas où il était. Il a tout essayé pour le retrouver. Il a entrepris toutes les recherches possibles et imaginables. Et pour finir, désespéré, après plusieurs années, il a décidé de publier un encart en première page d'un des plus grands journaux du pays. Et dans cet encart, il a écrit ceci: « Cher Paco, je te donne rendez-vous ce samedi à midi devant le marchand de journaux de la place Untel. Tout est pardonné, je t'aime, ton père. » Ce samedi-là, sur cette place, devant ce marchand de journaux, plus de 800 jeunes hommes qui s'appelaient Paco sont venus. Des centaines de jeunes hommes qui espéraient retrouver leur père, qui espéraient se réconcilier avec leur père, qui attendaient le pardon. Dans pratiquement chaque famille, il y a des conjoints, des enfants, des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents qui aspirent à la réconciliation, même s'ils sont peut-être trop fiers que pour le dire. Mais ils aspirent intérieurement à la réconciliation. Ils aspirent au pardon. Ils aspirent à pouvoir renouer une relation. Le Seigneur nous demande d'être de ceux qui font le premier pas pour accorder notre pardon ou pour demander pardon. Nous devons, en tant que disciples de Christ, être de ceux qui font le premier pas et pas attendre que l'autre le fasse. Oui, mais j'ai raison, il a tort. Non. Le Seigneur n'a pas attendu pour te pardonner, mon frère, ma sœur. Il n'a pas attendu que tu t'améliores. Il n'a pas attendu que tu deviennes meilleur. Il n'a pas attendu que tu viennes à l'église, que tu chantes des cantiques. Non, il n'a pas attendu pour se livrer sur la croix du calvaire, pour pardonner, pour endosser tes péchés. Il n'a pas attendu. Alors n'attends pas non plus. N'attends pas. Peut-être ce matin, quelqu'un est-il en train de se dire, mais j'entends bien ces principes, mais c'est tellement tard. C'est certainement trop tard pour moi. Ne dites jamais c'est trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je lisais cette parole que Dieu dit au prophète Jérémie, où à un moment donné, le prophète lui-même est quelque part dans le doute, dans le désespoir. Et Dieu lui dit, mais y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop difficile pour moi? Dis-moi. J'ai créé l'univers entier, tu n'arrives même pas à comprendre, à saisir l'univers. Et tu voudrais me dire qu'il y a quelque chose qui est difficile, trop difficile, impossible pour moi? Non. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a quelques années, Yolanta et moi, nous promenions. Nous avions décidé de nous promener le long d'un grand fleuve. Vous savez, ces moments où, comme on l'a vu hier, hein, où on se retrouve en couple et on échange et on partage. Comme je vous ai dit, je vous ai donné le conseil de le faire. Eh bien, c'était en fin d'année, il faisait très froid, on était chaudement habillés, il gelait pratiquement. On était partis pour faire une longue balade tout le long de ce fleuve. Et à un moment donné, sur ce pont-là, j'ai fait la photo, sur ce pont de pierre, je vois un jeune homme qui s'avance et qui vient juste au milieu là, et puis je fais une réflexion tout haut, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? N'est-ce pas un pont de chemin de fer? C'est pas pour les piétons, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pendant que je dis ça, il y a quelqu'un qui nous croise, parce qu'elle entend ce que je dis, elle se retourne, elle regarde le jeune homme, elle dégaine son téléphone et elle appelle les pompiers. Elle a tout de suite compris ce qui est en train de se passer, alors que moi je me posais des questions. Et pendant qu'elle explique tout ce qui se produit là, devant nos yeux, aux pompiers, eh bien, ce jeune homme, lui, à un moment donné, il se met debout sur le parapet Et il commence à faire de grands gestes et à crier en direction d'appartements qui sont sur le quai. Et là, je vois qu'il y a sur le balcon une jeune dame, visiblement enceinte, et sa maman derrière. Et le dialogue, on n'entend pas ce qu'ils se disent, mais ils crient. Et ce jeune homme, à un moment donné, je n'avais pas vu qu'il avait une bouteille à côté de lui, il boit une dernière gorgée. Et avant même que cette passante ait fini de raccrocher avec les pompiers, il plonge, il saute. Alors, il faisait très froid, je vous le rappelle. Il aurait pu mourir d'hydrocution en entrant dans l'eau. Mais il est clair que il est remonté à la surface. Et dans un instinct de survie, il a commencé à essayer de nager. Mais le courant était très fort. Et donc il n'arrivait pas à se dégager du centre de ce fleuve. Il aurait pu mourir d'hypothermie. On ne peut pas rester plus de 30 minutes dans une eau glacée à ce point. Il est emporté par le courant. Les pompiers vont arriver, la police arrive en premier, mais ils ne peuvent rien faire. Il est là, tout le monde regarde, il y a juste que sa tête qui dépasse, il bouge de moins en moins, il va couler. Comme si ce n'était pas assez, une péniche chargée arrive dans le sens du courant. Pleine vitesse, la cabine du pilote est à l'arrière, il ne voit pas cette petite tête qui dépasse de l'eau. Et nous sommes là en train de voir cette péniche arriver. On commence à gesticuler, à crier de toutes nos forces, mais on est loin. Le temps le pilote réalise ce qui est en train de se produire et qu'il mette les moteurs en marche arrière pour freiner cette immense péniche, la péniche s'approche à quelques décimètres de la tête de ce jeune homme, sans le toucher. Tout le monde est en train maintenant de dériver. La péniche est en marche arrière pour contrer le sens du fleuve. Il y a un autre pont, un pont pour les piétons, pour les voitures, à 300 mètres. Et petit à petit, on s'approche et ils sont en train de dériver tous les deux vers ce pont. Les pompiers arrivent. Un des pompiers se dit à l'idée de tendre une corde pour que ce jeune homme puisse s'accrocher, pour qu'il cesse de dériver. Et donc, il plonge une corde. Le jeune homme visiblement s'y accroche, mais à un moment donné, il disparaît, il est sous l'eau. Et là, nous sommes sur le côté, on ne voit plus rien parce que la péniche cache ce qui est en train de se passer. Les pompiers se sont préparés, le bateau de sauvetage est mis à l'eau. Il fonce à pleine allure vers le jeune homme qui est maintenant sous le pont. Et là, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a un des marins de la péniche qui a pu faire monter ce jeune homme à bord. Et on assiste à tout cela, on va jusqu'au deuxième pont, et on voit ce jeune homme donc être pris en charge par les pompiers, être amené par le bateau jusqu'à l'ambulance qui part. Et là, on lit à l'arrière de la péniche le nom. Vous savez, on donne toujours un nom aux péniches. Et le nom de cette péniche, c'était Nil Desperandum. Si vous avez fait un peu de latin, vous comprenez que Nil Desperandum, ça signifie ne désespère jamais. C'est un jeune homme désespéré qui a sauté dans l'eau. Je ne sais pas quels étaient ses problèmes. Il a sauté dans l'eau. Le message que cette péniche lui donnait, c'est ne désespère jamais. Le message que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vous donne ce matin, c'est ne désespère jamais dans tes relations familiales. Ne désespère jamais dans les difficultés que tu rencontres. Ne désespère jamais dans les obstacles qui te semblent insurmontables. Ne désespère jamais devant les montagnes infranchissables. Ne désespère jamais. Place ta confiance dans le Dieu de l'impossible. Place ta confiance dans la parole de ce Dieu qui a été éprouvé depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années, dans tant et tant et tant de relations familiales. La tienne n'est pas unique, la tienne n'est pas anormale ou spéciale. Il y en a eu tant d'autres avant. Alors, reviens à ces quelques principes que nous donne cette parole de vie. Cherche à comprendre l'autre. Pose-toi constamment la question, qu'est-ce qui est important pour elle? Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qui est important pour eux? Dis-toi que pour aimer l'autre, il faut que tu apprennes à le connaître. Tu ne peux pas l'aimer à ta manière. Tu ne peux pas l'aimer comme toi, tu voudrais être aimé. Tu dois l'aimer comme lui, elle, veut être aimé. Tu dois chercher à la comprendre, à la connaître. Et pour cela, tu dois passer du temps de qualité avec eux. Cela ne peut pas se faire autrement que dans l'écoute, dans l'abnégation de soi et dans l'écoute sincère, dans du temps de qualité. Cherche à mieux comprendre l'autre. Manifeste du respect. Honore l'autre comme étant supérieur à toi-même. Sois le premier à manifester ses égards, ce respect, cet honneur, quel que soit l'âge de celui qui est face à toi. Oh, c'est tellement difficile avec les ados. Quand ils donnent leur avis, c'est tellement difficile des fois de ne pas se dire « Oh là là, tu dois encore grandir, mon enfant. Tu n'as pas encore cette sagesse que j'aimerais trouver en toi. » C'est le moins qu'on puisse dire. Ils apprennent seulement à réfléchir. C'est tellement difficile de manifester du respect. Cherche à encourager. Sois toujours de celles de ceux qui, par un sourire, par un mot, simplement parce qu'ils voient ce qui est le meilleur chez l'autre, sont capables de lui insuffler du courage en relevant ce qui est positif, en relevant ce que Dieu peut faire. Et soyons de ceux qui offrent ou demandent le pardon, qui l'offrent au même prix qu'il nous a été offert. Sans majoration de taxes, sans majoration de prix. Non. Nos pardons sont rien en fonction, en comparaison de ce qui nous a été pardonné. Ne l'oublions jamais. Notre dette était immense. La dette de ceux qui nous ont fait du tort est peut-être importante, mais elle n'est rien en comparaison de ce qui nous a été pardonné. Alors offrons ce pardon gratuitement. Veillons à être toujours de ceux qui font le premier pas. Demandons et offrons le pardon. Voulez-vous entretenir de bonnes relations familiales? Voulez-vous développer de bonnes relations familiales? Voulez-vous améliorer vos relations familiales? Voulez-vous rétablir des relations familiales? Alors, prenons la décision de mettre en pratique ce matin ces principes. Je suis conscient que dans une relation, il y a deux parties. Je suis conscient que ça dépend aussi de l'autre partie, bien entendu. Mais la Bible nous encourage à être les premiers, à être de ceux qui permettent au Saint-Esprit d'agir. Alors soyons les modèles pour convaincre l'autre que l'amour de Dieu peut tout changer. Pour convaincre l'autre que le Saint-Esprit a le pouvoir de tout transformer, à commencer par notre propre vie. Ce n'est pas avec des mots que nous convaincrons l'autre, mais c'est avec notre exemple, avec notre vie transformée, avec la réalité du Saint-Esprit œuvrant en nous. Alors demandons secours au Seigneur ce matin. Demandons-lui d'agir, demandons-lui de nous transformer pour que nous puissions être, dans toutes ces relations qui sont abîmées, des modèles selon sa parole, selon les principes de vie que sa parole nous donne. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là. Il est en nous et il veut nous permettre, par sa force toute puissante, d'accomplir la volonté de Dieu. Prions ensemble. Venons devant le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Combien, Seigneur, de relations abîmées. Combien de relations détériorées, combien, Seigneur, peut-être avons-nous été négligents dans tel et tel domaine, vis-à-vis de telle et telle personne, Seigneur, pardon. C'est peut-être la première chose que le Saint-Esprit nous invite à faire, c'est certainement la première chose, parce qu'il en va de notre responsabilité, que nous le croyons ou pas, laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit, laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. Chassons tous les mensonges que nous nous répétons à longueur de journée pour nous justifier, mais laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Tu as un rôle à jouer dans cette situation. tu as une part à prendre, quel que soit le résultat. Confie-le au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Invoque le Saint-Esprit pour qu'il vienne transformer ton cœur. Invoque le Saint-Esprit pour qu'il vienne briser peut-être cet orgueil qui te fait dire « Non, j'ai raison ». Invoque le Saint-Esprit pour qu'il te permette de te tourner vers l'autre alors que tu es tellement tourné vers toi-même en premier. Invoque le Seigneur pour qu'il transforme ton cœur, pour qu'il produise en toi son fruit. Ouvre ton cœur, laisse-le te parler, laisse-le te convaincre. Abandonne-toi à lui. Le Seigneur veut faire une œuvre nouvelle, mon frère, ma sœur, dans ta vie, dans ton cœur. Il veut que tu sois, que tu deviennes un modèle, quelqu'un qui pourra être vraiment pris en exemple dans toutes les relations familiales de ta famille. Il veut commencer une œuvre de rétablissement, de réconciliation à travers toi. Il suffit d'un seul. Ce matin, c'est toi. Saint-Esprit te parle. Réponds. Réponds au Seigneur. Il t'appelle à venir à lui. Réponds au Seigneur. Ne dis pas c'est la faute d'un autre. Ne cherche pas des excuses. Ne te désiste pas devant l'appel de Dieu. Dieu s'occupera des autres. Mais toi, sois le premier. Toi, montre l'exemple. Toi, obéis à la parole de Dieu. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, qui êtes dans cette situation, qui avez besoin d'un attouchement tout particulier de la part du Seigneur, qui demandez avec insistance, avec foi, que le Saint-Esprit agisse dans votre vie. D'abord pour vous transformer, vous, non pas pour transformer la vie de quelqu'un d'autre. Le Seigneur veut vous transformer, vous. Si vous êtes convaincu que cette parole s'applique à votre vie, que vous demandez au Seigneur qu'il vous transforme de l'intérieur, alors je vous invite à vous lever pour que nous puissions prier pour vous. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions prier avec vous. Pendant que tout le reste du peuple de Dieu reste dans la prière, reste concentré dans la prière pour les frères et sœurs qui se sont levés. Reste concentré dans l'intercession pour que le Seigneur agisse là où, jusqu'à présent, rien n'a fonctionné. Dans cette situation impossible, qui te paraît impossible à vue humaine, qui provoque chez toi un désespoir, sache que le Seigneur est tout-puissant, qu'il fait des merveilles. Et il veut le faire à travers toi. Il veut manifester sa gloire à travers toi. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont debout, levés devant toi. Seigneur, tu vois leur cœur, Seigneur, et je me joins à eux. Seigneur, nous venons toutes et tous, Seigneur, comme les amis du paralytique pour les amener devant toi. Seigneur, parce que nous ne pouvons rien, sinon t'implorer ta grâce, ton secours, ton action. Que ton esprit soit à l'œuvre dans leur cœur maintenant, Seigneur. Oh Seigneur, tu es celui qui pardonne les péchés. Tu es celui qui, oh Jésus, fait des merveilles. Tu transformes les cœurs, tu fais des miracles, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que un amour débordant vienne remplacer, Seigneur, vienne brûler toute racine d'amertume. Je te prie, Saint-Esprit, pour que par ta puissance, Seigneur, tu transformes les cœurs, les vies, Seigneur. Oh Jésus, que ces principes deviennent tellement évidents dans le cœur, dans la vie, dans les attitudes, dans les paroles, dans les gestes, dans le comportement de chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, qu'il n'ait même pas besoin d'y penser tellement, Seigneur, tu agis avec puissance. Seigneur, nous voulons être totalement à toi, Seigneur. Et nous comprenons que nos relations avec nos bien-aimés dépendent de notre relation avec toi. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, pour établir une relation d'intimité, une relation profonde, une relation vraie, authentique, oh, réelle et puissante avec toi. Saint-Esprit, viens et descends sur chacun de mes frères et sœurs. Saint-Esprit, renouvelle-les, Seigneur, par une plénitude nouvelle, Seigneur. Oh Jésus, prends le contrôle de leur vie, de leur bouche, de leur cœur. Oh Jésus, prends le contrôle, Seigneur, et fais une œuvre nouvelle, Seigneur, dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, tu consoles, tu réconfortes. Oh Jésus, merci pour ton action ce matin. Merci Seigneur parce que tu rétablis, Seigneur. C'est un nouveau commencement que tu donnes dans certaines familles, dans certaines relations. Jésus, tu agis, Seigneur, dans le cœur et la vie de mes frères et sœurs. Tu te glorifies à travers eux. Tu te glorifies dans leur cœur, dans leur vie. Tu te glorifies, Seigneur, et tu touches, Seigneur, chaque membre de leur famille, Seigneur, à salut. Oh Jésus, merci. Nous te louons et te bénissons. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu fais, ce que tu vas faire. Louons le Seigneur, mes frères et sœurs. Louons le Seigneur. Disons-lui merci. Oh, reconnaissons qu'il est le Tout-Puissant. Humilions-nous devant lui. Rendons-lui grâce. Alléluia.